Chapitre 59. Le nouveau pontife d'Anderit, nommé et intronisé en moins de 24 heures, écarta théâtralement les bras. Campé sur un balcon, il dominait la foule qui se pressait sur la place et dans toutes les rues environnantes.
« L'heure a sonné, » déclara-t-il, « de mettre un terme à la haine. »
Sachant que les acclamations dureraient un bon moment, Dalton profita de l'occasion pour regarder Teresa. Sans cesser de se tamponner les yeux, elle sourit courageusement à son mari. La pauvre avait passé la nuit à prier pour le repos de l'âme du défunt pontife et à implorer le Créateur de veiller sur le nouveau. Dalton n'avait pas dormi non plus, occupé par une réunion où Bertrand, Hildemara et lui avaient préparé le discours inaugural de l'ancien ministre de la Civilisation. Bertrand rayonnait. Hildemara connaissait enfin son jour de gloire et Campbell tenait fermement les rênes du pouvoir. Aujourd'hui, l'offensive commençait.
Devenu votre pontife, je ne saurais tolérer qu'une atroce injustice vous frappe, braves gens d'Anderit. Le seigneur Râle vient de Dara. Que sait-il de vos désirs et de vos besoins? Comment peut-il penser, dès sa première visite, que nous remettrons nos vies entre ses mains?
La foule hurla sa rage. Bertrand la laissa faire un moment avant de demander le silence.
Nous avons lutté contre la haine et combattu des hommes sans foi ni loi qui se fichaient de voir mourir de faim des enfants. Sans relâche, nous avons lutté pour améliorer la vie du peuple d'Anderit. Et qu'a fait pour vous le seigneur Râle? Rien du tout. Où était-il quand nos enfants criaient famine? Qu'a-t-il proposé quand d'honnêtes pères de famille ne trouvaient pas de travail? Voulons-nous voir nos efforts balayés par un homme sans cœur et son épouse, une privilégiée née dans du coton? La mère inquisitrice ne sait rien de la souffrance du peuple. Elle n'a jamais vu un enfant pleurer parce qu'il a le ventre vide. Au moment où d'audacieuses réformes portent leurs fruits, faudrait-il renoncer à tout?
Bertrand tapa du poing sur la rambarde pour ponctuer rageusement son discours.
Le seigneur Râle ne s'intéresse qu'à sa magie. Voilà la vérité. Il est venu ici pour nous exploiter. Car cet homme, ne vous y trompez pas, porte le masque de la bonté sur le visage hideux de la haine. Avec ses sortilèges, il empoisonnera nos eaux et nous ne pourrons plus pêcher. Oui, pour créer d'atroces armes, il souillera nos lacs, nos fleuves et même l'océan.
L'auditoire, d'abord choqué, rugit de rage en entendant ces affirmations. Dalton notait soigneusement les réactions que provoquait chaque mot de Bertrand. Ainsi, il pourrait peaufiner le texte pour les prochains discours du pontife et confier à ses messagers une version parfaitement au point.
« Râle a invoqué des démons pour l'aider à livrer sa guerre inique. Vous avez sans doute entendu parler d'une série de morts étranges. » Pensez-vous qu'il s'agisse d'une coïncidence? Non, mes enfants, c'est la magie de Râle qui tue les nôtres. Après avoir invoqué, ou peut-être même créé, des monstres, il les a lâchés sur nous pour voir s'ils savaient bien tuer. Ces démons brûlent des innocents ou les forcent à se noyer. Parfois, il les oblige à se jeter dans le vide du haut d'un toit ou d'une falaise.
Terrifiés, des hommes et des femmes crièrent.
« Oui, Râle se sert de nous pour tester ses abominables armes. Bientôt, sa magie fera naître un brouillard maléfique qui s'infiltrera jusque dans nos maisons. Voulez-vous que vos enfants respirent cette brume empoisonnée? Accepterez-vous de les voir mourir étouffés à cause des incantations de Richard Râle, un apprenti sorcier qui ne se soucie pas de prendre des précautions? Désirez-vous les voir devenir difformes parce qu'ils auront nagé dans une mare souillée par la magie du Daran? Voilà ce qui nous attend si nous n'empêchons pas ce couple de prédateurs d'annexer notre pays. Râle nous tuera tous afin que ses puissants amis viennent s'approprier nos biens. C'est pour nous détrousser qu'il est là, n'en doutez pas. »
Désormais, de l'angoisse se lisait sur tous les visages. Dalton se pencha vers Bertrand et murmura : L'eau et l'air, c'est ça qui les terrorise. Insistez. Le pontife hocha imperceptiblement la tête.
Voilà ce qui arrivera, mes enfants, si nous laissons ce dictateur agir comme il l'entend. Sa magie empoisonnera l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons. Pendant que ses sbires et lui s'enrichiront, de pauvres travailleurs, andériens comme Aken, souffriront et mourront. Ra'al utilisera notre air et notre eau pour créer des monstres et imposer une guerre dont personne ne veut.
Bertrand leva une main.
L'ordre impérial propose d'acheter notre production deux fois plus cher que nous la vendons actuellement.
Des cris de joie montèrent de la foule.
Ra'al nous volera tout. Voilà le choix qui s'offre à vous, braves gens d'Anderit. Croire les mensonges d'un sorcier venu de Dara qui vous dépouillera de vos droits les plus élémentaires, puis se servira de votre pays pour développer son pouvoir et imposer coûte que coûte une guerre inutile. Un monstre qui affamera nos enfants ou les utilisera comme cobayes pour mesurer les effets de ses sortilèges et de ses ignobles créatures. L'autre possibilité est de commercer avec l'ordre impérial et d'enrichir vos familles au-delà de l'imaginable.
À présent, la foule était vraiment conquise. Venus écouter leur nouveau pontife avec de l'amour plein le cœur, ces gens entendaient pour la première fois un discours qui leur fournissait de bonnes raisons de rejeter le seigneur Ra'al et de le redouter par-dessus le marché. Mais surtout, de le haïr sans se sentir coupable. Sur la liste qu'il tenait discrètement, Dalton avait rayé les arguments inefficaces et entouré d'un cercle ceux qui mettaient en plein dans le mille. Comme Bertrand et lui l'avaient prévu, le mot « enfant » associé à une énumération d'horreurs suffisait à pousser une foule au bord de l'émeute. Dès qu'ils l'entendaient, à condition qu'il soit utilisé à bon escient, la plupart des gens perdaient tout leur bon sens. L'homélie sur la paix était également une poule aux œufs d'or. Les auditeurs de Bertrand avaient été terrifiés d'apprendre que le seigneur Ra'al était le fauteur de guerre et que ce conflit ne servirait à rien. Les gens voulaient la paix à n'importe quel prix. Et quand ils devaient régler la facture, ils s'y résignaient parce qu'il était trop tard pour faire autrement.
« Mes amis, nous devons dire non au seigneur Ra'al. Oubliez cet épisode pénible de notre histoire et nous tourner résolument vers l'avenir. » Croyez-moi, ce n'est pas le moment de renoncer à tout pour devenir les esclaves d'un sorcier assoiffé de pouvoir et de sang. La paix peut être sauvée si on lui donne une chance. Avec lui, elle n'en aura aucune. Je sais que ce tyran jettera aux orties nos traditions et nos croyances. Sous son règne, vous n'aurez plus de pontife pour vous guider. Mais je m'inquiète à votre sujet, mes enfants, pas pour moi-même. Il me reste encore tant de choses à faire et tellement d'amour à vous donner. J'ai été béni, mes enfants, et je tiens tellement à me dévouer pour le bien commun. Je t'en conjure, peuple d'Anderit, si fier et si droit. Montre ton mépris à l'usurpateur venu de Dara. Fais-lui savoir que tu n'es pas dupe de ses ruses. Par ma bouche, mes enfants. Le Créateur vous implore de tracer une croix sur votre bulletin le jour du scrutin. Chassons d'Anderit le vil manipulateur. Foulons aux pieds ses mensonges, refusons sa tyrannie, expulsons-le de chez nous et la mère inquisitrice avec lui.
Alors que la foule rugissait à en faire trembler les bâtiments environnants, Bertrand leva les bras et les croisa pour former un X géant, visible depuis les derniers rangs. Le couvant d'un regard enamouré, il demeura applaudi à tout rompre. Quand il eut obtenu le silence en tendant un bras paternel, Bertrand prit la main de sa femme et la leva au-dessus de leur tête, comme s'il était encore besoin de présenter Dame Chanbour au peuple. Les acclamations furent à peine moins longues que celles qui avaient salué le nouveau pontife. Heureuse de jouer enfin le rôle qu'elle répétait en secret depuis des années, Ildemara leva les mains pour demander le silence. Et elle l'obtint en un clin d'œil.
« Bonne gens d'Anderit, si vous saviez à quel point je suis fière d'être l'épouse d'un tel homme.
Les clameurs couvrirent sa voix. Extatique, elle les savoura un moment, puis réclama de nouveau le silence.
« Depuis des années, je le vois travailler sans relâche pour faire le bonheur d'Andérite et de son peuple. Sans chercher la célébrité, heureux de son anonymat, il n'a jamais cessé de s'échiner, prenant à peine le temps de manger et de dormir. Et lorsque je lui demandais de se ménager, savez-vous ce qu'il répondait ? Il demeura. Tant qu'un seul enfant aura encore faim, me reposer serait un crime. »
Entendant l'auditoire applaudir à tout rompre, Dalton se tourna discrètement pour boire une gorgée de vin. Teresa se serra contre lui et lui prit le bras.
« Dalton,
souffla-t-elle,
en nous donnant Bertrand, le Créateur a répondu à toutes nos prières. »
L'assistant faillit éclater de rire, mais il vit que sa femme ne plaisantait pas. Dépité, il soupira d'agacement. Le Créateur n'était pour rien dans cette affaire. Si Bertrand était aujourd'hui au sommet, c'était à un certain Dalton Campbell qu'il le devait, et à personne d'autre. « Tess, sèche tes larmes, le meilleur est encore à venir. »«
Pour le salut de nos enfants, »
continua Hildemara quand le calme fut revenu,
« je vous demande de rejeter la haine et la division que le Seigneur Râle dissimule derrière ses sourires et sa bonté. Pareillement, opposez une fin de non-recevoir à la mère inquisitrice. Que sait-elle des humbles et des miséreux ? Née dans un palais, une cuillère en argent dans la bouche, que connaît-elle des souffrances d'un travailleur ? Montrez-lui que son droit héréditaire à gouverner n'est plus de mise. Faites-lui savoir que nous ne nous laisserons pas tromper par ses beaux discours qui visent à nous exploiter et à voler nos biens. Apprenez-lui que sa douillette existence de privilégié nous inspire le plus profond mépris. Dites non à cette femme qui ose tenter d'imposer sa volonté à un peuple qu'elle ne connaît pas. Le seigneur Râle et la mère inquisitrice sont assez riches comme ça. S'ils veulent s'engraisser davantage, qu'ils ne le fassent pas chez nous. Andérite ne sera pas l'auge de ses porcs. »
Tandis que la foule hurlait à plein poumon les noms du nouveau pontife et de son épouse, Dalton bâilla et se frotta les yeux. Quand donc avait-il dormi pour la dernière fois? Pour que l'élection du pontife soit unanime, il avait dû forcer la main d'un des directeurs. Même si elle n'était pas requise, l'unanimité supposait qu'une intervention divine avait facilité le choix du nouveau chef et elle renforçait sa position durant son règne. Lorsque Bertrand recommença à haranguer la foule, Dalton l'écouta d'une oreille distraite, jusqu'à ce qu'il l'entende mentionner son nom.
« C'est pourquoi, parmi d'autres raisons qu'il serait trop long d'énumérer, je me suis impliqué dans le processus qui a conduit à la nomination de mon successeur. Permettez-moi de vous présenter un homme qui vous protégera et vous servira aussi bien que tous ceux qui l'ont précédé à ce poste. Bonnes gens, voici Dalton Campbell, votre nouveau ministre de la civilisation. »
Teresa tomba à genoux devant Bertrand, la tête humblement inclinée.
« Votre grâce, »
dit-elle,
« merci d'avoir reconnu la valeur de mon mari, et soyez béni d'avoir tant fait pour lui. »
Au lieu de la fierté qu'il s'attendait à éprouver, Dalton se sentit surnuméraire, comme une vieille fille qui fait tapisserie dans une salle de bal. Teresa savait combien il avait travaillé dur pour en arriver là. Et voilà qu'elle attribuait à Bertrand Chanebourg tout le mérite de sa fulgurante ascension. Telle était la force de la parole du pontife. Alors qu'il réfléchissait au discours qu'il allait prononcer pour soutenir la position de Bertrand et d'Hildemara, Dalton songea que c'était plutôt une bonne chose, car le peuple, comme Teresa, serait subjugué et voterait dans le sens que lui indiquait son guide spirituel. Mais le plus impressionnant restait encore à venir, car Dalton allait tirer de sa manche un atout majeur. La puanteur agressa les narines de Campbell dès que le gardien eut ouvert la porte de la cellule. À l'intérieur, il faisait trop noir pour qu'on y voie quoi que ce fût. Dalton claqua des doigts. Aussitôt, les deux geôliers, des Andériens, décrochèrent des torches de leurs supports muraux et accoururent.
« Tu es sûr qu'il est toujours vivant ? »
demanda-t-il à l'un des hommes.
« As-tu vérifié ?»«
Il n'est pas mort, messire ministre, je vous le garantis. »
Un instant, Dalton fut déconcerté de s'entendre appeler par son titre. Quand on s'adressait à lui ainsi, il lui fallait toujours une fraction de seconde pour se mettre dans la peau du personnage.
« Dalton Campbell, ministre de la civilisation. »
Une douce musique à ses oreilles.
« Par là, messire ministre !»
dit le gardien en brandissant sa torche. Dalton enjamba des hommes si crasseux qu'on les voyait à peine sur le sol brunâtre. Une eau fétide coulait dans une dépression au centre de la cellule. En amont, c'était une source d'eau potable. En aval, l'évacuation des latrines. Le sol, les murs et les prisonniers grouillaient de vermine. Au fond de la cellule, une fenêtre défendue par d'épais barreaux, et de toute façon trop petite pour qu'un adulte puisse passer, donnait sur une étroite ruelle. Si la famille ou les amis des détenus se souciaient encore d'eux, ils pouvaient venir leur parler et les faire manger. Avec les fers qu'ils portaient aux poignets et aux chevilles, les prisonniers ne pouvaient pas s'entretuer pour la nourriture. En fait, ils étaient condamnés à rester allongés sur le sol, car leurs chaînes les empêchaient de marcher. Pour survivre, il leur restait la solution de sautiller, puis de coller la bouche à la fenêtre pour se faire nourrir, et si personne ne venait les alimenter, ils crevaient d'inanition. Tous les prisonniers étaient nus, et il y avait même dans le lot une vieille femme rachitique et édentée. Dalton n'aurait pas juré que certains de ces misérables n'étaient pas déjà morts. En tout cas, ils ne réagissaient plus quand on les piétinait.
« Gardien, je suis surpris qu'il ait survécu. »«
Ses fidèles viennent le nourrir tous les jours, et il leur parle quand il a fini de manger. Il s'assoit en rond et il l'écoute comme s'il était un prophète. »
Dalton ignorait que le fanatique avait gardé des disciples actifs. Un très bon point. Avec des excités prêts à agir, le processus serait lancé encore plus rapidement.
« Le voilà, ministre Campbell !»
dit le plus grand des deux gardiens. Il flanqua un coup de pied dans les côtes d'un homme couché sur le flanc. Le prisonnier tourna la tête avec une lenteur délibérée. Un œil étonnamment brillant et vif se braqua sur Dalton.
« Serin Rajak ?»«
Lui-même !»
grogna l'homme.
« Que voulez-vous ?»
Dalton s'accroupit et faillit vomir sur le détenu. La puanteur était insupportable.
« Je suis le nouveau ministre de la civilisation, maître Rajak, et mon premier acte sera de réparer l'injustice qui vous a frappé. »
Dalton vit que Rajak était borgne. Une cicatrice boursouflée et purulente remplaçait son œil gauche.
Une injustice. Il n'y a que ça dans le monde. La magie fond sur les pauvres gens comme un prédateur affamé. C'est à cause d'elle que je suis là. Mais je n'ai jamais plié l'échine sous son joug. Non, messire, jamais. Ce monstre ne me dévorera pas. Pour la cause, j'ai été heureux de sacrifier un de mes yeux. Le sale boulot d'une sorcière, messire. Si vous voulez que je renonce à ma guerre sainte contre la magie, vous pouvez me laisser crever ici, vous m'entendez? Je ne rendrai jamais les armes. »
Dalton recula tandis que Rajak se débattait sur le sol, acharné à briser des chaînes que même un fou aurait dû savoir trop solides pour lui. Il insista jusqu'à ce que du sang coule de ses poignets.
« Je n'abandonnerai jamais le combat, vous m'entendez ? Je ne me vendrai pas à ceux qui utilisent la magie pour torturer les véritables adorateurs du Créateur. »
Dalton posa une main sur l'épaule graisseuse du fanatique.
« Maître Rajak, vous vous méprenez sur mes intentions. La magie cause de grands torts à notre pays. Des gens meurent brûlés ou noyés et d'autres se jettent dans le vide sans raison.
« De la sorcellerie !»«
C'est ce que nous redoutons. »«
Les sorciers envoûtent de pauvres innocents. J'ai voulu vous avertir, mais personne ne m'a écouté. J'ai tenté d'aider mon pays et regardez ce qu'on m'a fait.
C'est pour ça que je suis venu, Sérine. Je vous crois, et j'ai besoin de vous. J'entends vous libérer et vous prier de m'aider.
L'œil unique de Rajak brilla comme un phare dans une nuit d'encre.
Le Créateur soit loué,
murmura-t-il.
Enfin, je vais pouvoir accomplir son œuvre.